Merci, Damon. Monsieur le secrétaire général, généraux, amiraux, c'est évidemment beaucoup plus facile quand on a une équipe efficace, et c'est le cas quand nous travaillons en coopération avec le Conseil Atlantique, Atlantic Council. Alors, je voulais commencer par vous remercier pour être venu de l'autre côté de l'Atlantique. Je sais que c'est difficile quelquefois et éprouvant, mais on s'habitue et puis ensuite il faut rentrer et faire la même chose dans l'autre sens. Je tiens en particulier à accueillir quelqu'un qui a beaucoup contribué à notre communauté, dont c'est d'ailleurs l'anniversaire aujourd'hui. Christopher Harper, je ne sais pas où il est. Ah, il est là, Christopher. Bon anniversaire. Nous sommes réunis pour célébrer cet anniversaire avec vous. Bon, c'est un réel plaisir et un honneur pour moi d'être ici. Vous vous souviendrez sans doute que nous nous sommes réunis l'année passée à Paris. Et cela a été très utile pour la préparation en particulier du sommet du Pays de Galles. Mais nous sommes ici pour voir ce qui a été accompli. Donc nous sommes maintenant à mi-chemin entre les deux sommets. Et l'ambition du séminaire, comme l'a dit Damon, est de nous donner à tous la possibilité de marquer un temps d'arrêt et d'examiner la transformation de l'OTAN, ceci en accueillant ici les autorités militaires et politiques de l'OTAN, ainsi que des représentants de l'industrie. C'est un séminaire ouvert à l'extérieur. C'est comme ça que nous concevons la transformation. Nous essayons de relier toutes les différentes capacités de réflexion qui existent au sein de l'Alliance, y compris les think tanks, les universités et les jeunes leaders qui sont parmi nous aujourd'hui. Il y a un an de cela, le séminaire de transformation de l'OTAN à Paris est tombé à pic, et ceci puisque des crises importantes étaient en cours sur les frontières méridionales et orientales de l'Alliance, et ceci pour préparer le sommet du Pays de Galles. Nous avons beaucoup insisté sur la nécessité d'établir un nouvel équilibre des tâches fondamentales de l'Alliance, ceci en soulignant aussi l'importance des interactions entre elles, c'est-à-dire la défense collective, la gestion de crise et la sécurité coopérative. Nous avons parlé de la nécessité pour les forces de l'OTAN d'être préparées et entraînées, ceci pour répondre à toute la gamme des missions couvertes par le concept stratégique et la nécessité de donner une nouvelle énergie à la capacité opérationnelle et la réactivité, et ceci pour réagir au développement rapide des menaces et des crises. Et je crois que nos réflexions ont beaucoup contribué à la conception du plan d'action réactivité. Et nous travaillons là-dessus, et ceci en coopération avec SACEUR, et ceci pour vous donner le meilleur produit possible. Alors, nous allons continuer les efforts menée par le secrétaire général et les nations, ceci pour compléter les tâches qui nous ont été fixées par les chefs d'État et de gouvernement, ceci pour développer un ensemble de livrables pour le sommet de Varsovie l'année prochaine et au-delà. Nous devons continuer, et ceci pour préparer l'Alliance de la manière la plus efficace possible. Alors, en mettant en œuvre le plan d'action et réactivité, il nous faut aussi garder à l'esprit les objectifs fixés par les sommets précédents, par les forces OTAN 2020. Il nous faut aussi développer des perspectives à plus long terme, car l'avenir ne nous attend pas. Alors, depuis 66 ans, et depuis la dernière décennie en particulier, la transformation cohérente durable de l'OTAN a permis aux forces OTAN de répondre à des crises émergentes, le cas échéant. Et je crois qu'il est vital de préserver, voire même augmenter la transformation, car nos forces auront à faire face à un environnement de sécurité encore plus difficile dans l'avenir proche. Et ceci pour trois raisons principales. D'abord, de plus en plus d'intervenants étatiques et non étatiques ne se considèrent pas limités par le droit international. Et ont des ambitions de frapper nos territoires. Sur le modèle russe, certains vont synchroniser leurs efforts, et ceci pour agir avec un niveau d'ambiguïté accru. Ce mode opératoire hybride sera innovateur et dérangeant. Ensuite, nos adversaires vont peut-être développer des crises diverses, simultanées, rapides, ceci pour mettre de la pression sur notre capacité de planification et de préparation, et ceci en mettant et en menaçant la célérité de l'Alliance. Et ensuite, pour finir, nos adversaires vont utiliser des systèmes de déni d'accès et déni de zone, et ceci pour menacer nos forces dans leur profondeur stratégique opérationnelle et menaçant ainsi la capacité de l'un à réagir. Pour adapter nos forces par ces menaces à moyen et long terme, nous avons 5 principes issus d'ailleurs du cadre pour les opérations futures de l'Alliance. D'abord, et vous les connaîtrez certainement, d'abord, pour la prise de décision dans chaque opération, il faut améliorer notre capacité de sensibilisation stratégique. Les capacités de reconnaissance et de surveillance réelle en temps réel et l'expertise humaine qui est absolument vitale. Le partage d'informations, ce n'est pas une option, mais une nécessité. Ensuite, dans ce cadre opérationnel du futur, nos forces devront être ce que j'appelle avoir une capacité d'absorption de choc, car puisque nous sommes confrontés par des contraintes budgétaires, avec un environnement difficile, il nous faut absolument coordonner, consolider notre résilience partagée, commune, et ceci en adoptant des mesures de protection et de redondance définies. Ceci pour protéger nos infrastructures vitales, les centres de décision, les populations, les réseaux, et voire d'autres centres de gravité. Ensuite, pour nos forces vont devoir être très agiles et modulaires, capable de mener toute la gamme des opérations de guerre, y compris les opérations de haute intensité. Lors de la mise en œuvre de l'initiative CFI, ce sera très important de préparer et de leur donner l'entraînement requis pour les 3 tâches fondamentales de l'Alliance. Ensuite, dans tous les contextes, y compris le domaine hybride, notre Alliance doit pouvoir contrôler l'histoire ou la communication par une stratégie de communication stratégique efficace. Et ensuite, nos partenaires qui sont maintenant une partie fondamentale de l'Alliance, il nous faut faire en sorte que nos forces sont interopérables avec les nôtres, et ceci pour leur permettre de contribuer pleinement aux futures opérations coalisées et de traiter aussi leur sécurité au niveau régional. Et je crois qu'ils méritent une contribution à la prise de décision au sein de l'Alliance et de son avenir. Je suis ravi d'avoir parmi nous ce que j'appelle nos partenaires de l'Alliance et nous accueillons aussi nos partenaires stratégiques, l'Union européenne. Et ceci pour marquer nos progrès menés ensemble, même s'il reste beaucoup de progrès à faire. Mais une vision et une stratégie sans ressources est un rêve, un mirage. Alors, en ce qui concerne les forces OTAN 2020, cela dépend en grande partie de notre capacité à traiter les effets à long terme des coupes budgétaires réalisées à l'issue de la guerre froide. Et il faut l'accepter, le reconnaître. Ces coupes ont eu un impact important sur l'état de préparation, les services offerts, la modernisation de nos capacités et le soutien logistique de nos forces. Ce qui nous mène à confronter une question fondamentale pour l'Alliance lorsque nous faisons face à des menaces émergentes multiples et simultanées sur la base de nouvelles technologies. J'espère qu'à long terme, les engagements pris en matière de capacité permettront de financer les feuilles de route et ceci pour les 16 déficits capacitaires identifiés. Mais notre objectif est de donner des réponses à court et à moyen terme. Il nous faudra peut-être donner une priorité et combler les déficits temporaires Et c'est nos rôles en tant qu'autorité militaire de l'OTAN de vous donner des options stratégiques et une évaluation des risques. Mais il nous faut avoir une vision commune des objectifs, d'où l'importance des orientations politiques. À court terme et à moyen terme et à long terme. Alors la bonne nouvelle est que nous pouvons tirer profit des, que ce soit la défense intelligente, le pooling, le sharing de l'Union européenne, et certains de ces projets sont presque complétés. D'autres projets plus ambitieux ont besoin d'un engagement à long terme et bien au-delà de 2020. Nous avons constaté qu'en développant cette approche multinationale, que rien ne peut remplacer les investissements nécessaires pour engager les pays et l'industrie. Et ensuite, il faut du temps pour ajuster les besoins et fixer les cadres. Et enfin, cela nous donne la capacité, la possibilité d'innover et de tirer pleinement profit des nouvelles technologies, des nouveaux concepts, et ceci en reliant les esprits. Et je crois que l'Alliance a la capacité et d'ailleurs la nécessité d'encourager, de développer l'innovation, et ceci pour donner toutes les armes nécessaires à aux hommes et aux femmes de l'Alliance. Et je crois aussi qu'il nous faut partager les meilleures pratiques, les meilleures idées en ce qui concerne les processus d'acquisition, et ceci pour rendre le processus plus efficace. La supériorité de nos forces dépend aussi de notre capacité à nous adapter, d'adapter nos concepts et d'identifier les technologies les plus nouvelles avec les organisations privées, l'industrie, les universités et les autres intervenants. Je vais vous donner un exemple concret, car il faut être pragmatique. Alors que nous allons remplacer certains moyens importants, tels que les AWACS, par exemple, qui sont tellement importants, qui ont tant contribué à la surveillance et au commandement et au contrôle, il nous faudra les remplacer d'ici les 20 prochaines années. Et nous avons la possibilité de développer une approche collaborative, ceci pour donner des solutions abordables et crédibles. Et c'est aussi une opportunité pour nous de renforcer le lien transatlantique et de donner un soutien à la base industrielle de défense et de technologie de la défense des deux côtés de l'Atlantique. Alors nous voulons développer une transformation, une alliance capable de donner des réponses claires et simples, et ceci pour faire face aux défis de sécurité émergents, et ceci pour donner une cohérence à tous les efforts qui ont précédé et de le faire de manière la plus efficace possible, en établissant un équilibre entre les ambitions et le pragmatisme, en nous portant en particulier sur les capacités opérationnelles et en tirant pleinement profit du potentiel humain de l'Alliance. Et en investissant, par exemple, avec la jeunesse. En coopération avec l'Atlantic Council, nous avons organisé une journée des jeunes qui a traité des mêmes sujets. Alors nous attendons leur contribution. Nous avons des représentants de ce groupe parmi nous. Et je suis certain qu'ils n'hésiteront pas à prendre la parole. Alors je vous rappelle que simple et frappant a été le besoin qui a été établi pour le développement et la conception du drapeau de l'OTAN en 1953. Un compas blanc symbolisant la direction vers la paix avec quatre lignes blanches dans les quatre points cardinaux. La couleur bleue symbolisant l'océan Atlantique, le cercle représentant l'unité. Mesdames et messieurs, notre capitaine aujourd'hui, il nous faut un capitaine important, et c'est pour moi un grand honneur et un plaisir d'accueillir notre nouveau secrétaire général, Jens Stoltenberg, secrétaire général. Je vous passe la parole.